La visite d'État de l'émir du Qatar à Téhéran. Le corps des gardiens de la révolution islamique a attaqué les positions des terroristes dans le nord de l'Irak. Et la rencontre du négociateur en chef iranien avec Enrique Mora. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Jeudi 12 mai, le président iranien Ebrahim Raisi a accueilli l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, au complexe présidentiel de Sadabad à Téhéran. Le cheikh Tamim effectue une visite d'État d'une journée dans la capitale iranienne, à la tête d'une délégation politique et économique de haut rang. Les deux hommes tiennent une réunion qui sera suivie d'une conférence de presse. Des rencontres avec d'autres hauts responsables iraniens sont également prévues. Cette visite fait suite à un voyage du président Raisi à Doha il y a 3 mois. Le renforcement des relations bilatérales ainsi que les grands sujets de préoccupation régionaux et internationaux seront au cœur des discussions. Le cheikh Tamim s'était rendu pour la dernière fois à Téhéran en janvier 2020. Le corps des gardiens de la révolution islamique affirme avoir détruit les positions des groupes terroristes opérant dans la région autonome du Kurdistan irakien. Les forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique ont ciblé les repères des terroristes à Erbil avec des tirs d'artillerie. Pour l'instant, aucun bilan n'a été dressé sur le nombre de victimes et les dégâts. L'opération faisait suite à l'arrestation d'une équipe terroriste qui envisageait de commettre des actes de sabotage dans l'ouest de l'Iran. Un communiqué indique que les aveux des détenus ont conduit à l'opération mercredi matin. L'Iran a à maintes reprises averti la région du Kurdistan irakien qu'il se réservait le droit de mener des frappes contre les groupes terroristes actifs dans la région. En septembre de l'année dernière, des missiles iraniens ont détruit 4 bases de groupes hostiles. Et en mars de cette année, le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré 12 de missiles balistiques sur ce qu'il a décrit comme une base secrète de l'agence d'espionnage israélienne le Mossad à Erbil. Le coordinateur de l'Union européenne pour les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien s'est entretenu avec le négociateur en chef iranien. La rencontre entre Enrique Mora et Ali Boredikhani à Téhéran a eu lieu dans le but de donner un nouvel élan pour sauver l'accord multilatéral de 2015 en agonie depuis le retrait des États-Unis en 2018. Les pourparlers entre l'Iran et les autres signataires de l'accord sont au point mort depuis le milieu du mois de mars. Mora a joué un rôle clé en tant qu'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran au cours d'une année de pourparlers à Vienne pour rétablir l'accord abandonné unilatéralement par Donald Trump. Avant son déplacement à Téhéran, Mora a écrit sur Twitter qu'il venait pour travailler à combler les lacunes restantes dans les pourparlers. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que la visite de Mora montre que les pourparlers progressent toujours sur la bonne voie, mais cela ne signifie pas qu'il arrivera avec un nouveau message, a renchéri le diplomate iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les habitants de la région de l'Asie occidentale n'accepteraient jamais la normalisation des relations de leur pays avec le régime israélien terroriste et infanticide. Hossein Amir Abdullahian a tenu ces déclarations à l'occasion d'une rencontre avec le ministre libanais de la Culture, Mohammad Wissam Al-Murtada, en visite à Téhéran. Amir Abdullahian a ajouté que la résistance du peuple libanais face aux fréquents actes d'agression d'Israël est un brillant modèle à suivre pour les autres nations de la région. Il a également dit que Téhéran était prêt à renforcer la coopération économique avec Beyrouth malgré les cruelles sanctions occidentales. Al-Murtada a pour sa part déclaré que le Liban aussi était prêt à étendre ses relations avec tous les pays amis de la région, en particulier la République islamique d'Iran. Un service commémoratif officiel a été organisé dans l'enceinte présidentielle de Ramallah en Cisjordanie pour une journaliste palestinienne, un jour après que les forces israéliennes l'ont tuée. Une foule immense de personnes en deuil a rendu un dernier hommage ce jeudi matin à Shirin Abu Akleh, célèbre journaliste de la chaîne panarabe qatari Al Jazeera, qui a reçu une balle à la tête par les tireurs d'élite israéliens alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne à Jenin mercredi. Jeudi, en fin de matinée, une cérémonie officielle est prévue à Ramallah, en Cisjordanie, au siège de l'autorité autonome palestinienne, en présence du président Mahmoud Abbas et de représentants de la presse, avant ses funérailles vendredi dans une église de la ville sainte de Quds occupée, ville où elle a grandi. Les forces du régime israélien ont tué un autre Palestinien à Quds occupée. Un jeune Palestinien a été tué mercredi 11 mai par des tirs de l'armée israélienne, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur le Palestinien près de la mosquée Al-Aqsa. Le régime israélien prétend que le jeune Palestinien a été touché après avoir tenté de poignarder un officier israélien. L'attaque survient quelques heures seulement après qu'une journaliste de la chaîne Al Jazeera a été abattue par les forces israéliennes à Jenin. Et enfin, la Russie a imposé des sanctions à plus de 30 sociétés énergétiques européennes, américaines et singapouriennes en représailles aux mesures coercitives de l'Occident contre Moscou. Parmi les entreprises placées sur la liste noire figure Gazprom Germania, une ancienne filiale du principal exportateur de gaz russe, Gazprom. Europol Gaz, propriétaire de la partie polonaise du gazoduc Yamal Europe, fait également l'objet des sanctions. Des restrictions imposées comprennent une interdiction de transactions et l'entrée dans les ports russes de navires liés aux entreprises concernées. La liste publiée par la Russie ne donne pas plus de détails sur les sanctions. En vertu d'un décret présidentiel publié plus tôt ce mois-ci, aucune entité russe n'est autorisée à conclure des accords avec les parties sanctionnées ou à remplir ses obligations prévues dans le cadre des accords existants. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions contre Moscou en réponse à l'opération militaire russe en Ukraine. L'Iran arrête deux ressortissants européens pour fomenter l'insécurité et le chaos. Le ministère iranien du renseignement a annoncé avoir arrêté deux ressortissants européens qui avaient orchestré un complot visant à fomenter le chaos le désordre social et l'insécurité dans tout le pays, soulignant l'implication croissante des agences d'espionnage européennes dans les activités anti-iraniennes. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère iranien du renseignement a ajouté que des conspirateurs étrangers avaient envoyé deux de leurs agents chevronnés en Iran pour mettre en œuvre un projet hybride consistant en des méthodes douces et dures de guerre. Le communiqué n'a pas précisé la nationalité des deux personnes arrêtées, mais a souligné qu'ils avaient pour mission de former et d'organiser un réseau à l'intérieur de la République islamique d'Iran pour acquérir des connaissances sur les problèmes économiques des citoyens de la classe ouvrière et détourner leurs demandes et revendications en créant une vague destructrice de chaos et d'instabilité à l'intérieur de la République islamique d'Iran. Le ministère iranien du renseignement a également lancé un avertissement sévère aux conspirateurs étrangers et à leurs partisans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, affirmant que ces deux Européens étaient étroitement surveillés par les unités du renseignement iranien depuis longtemps avant leur arrestation. Leur arrestation intervient alors que les relations de la République islamique d'Iran avec certains pays européens, comme la Suède et la Belgique, ont été tendues à la suite de l'emprisonnement de diplomates iraniens. L'emprisonnement et le procès illégaux de Hamid Nouri, un ancien fonctionnaire de la justice iranienne, est l'un de ces cas qui tourne en dérision les normes occidentales en matière des droits de l'homme et met à nu leur hypocrisie. Nouri a été arrêté à l'aéroport de Stockholm en 2019 à son arrivée en Suède et a été détenu pendant plus de 2 ans. Il a été accusé d'avoir participé à l'exécution des membres du groupe terroriste anti-iranien Organisation Mujahedin et Khalq, OMK, en 1988. Une accusation que la République islamique d'Iran a rejetée comme fausse. La République islamique d'Iran considère la détention et le procès de Hamid Nouri, citoyen iranien, comme illégaux et exige sa libération immédiate, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, à son homologue suédoise la semaine dernière. À cet égard, la République islamique d'Iran a même convoqué plus tôt ce mois-ci l'ambassadeur de Suède à Téhéran pour protester contre l'emprisonnement de Nouri et son procès. Un autre cas concerne le diplomate iranien Assadollah Assadi, qui a été emprisonné en Belgique pour des accusations liées au terrorisme. Récemment, un tribunal belge l'a condamné à 20 ans de prison pour avoir comploté un attentat contre les membres de l'OMK. Mardi, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la détention et le procès d'Assadi violaient la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Les médias occidentaux ont tenté de lier ces deux affaires au procès d'Ahmadreza Djalali, un résident suédois d'origine iranienne qui a été condamné en Iran pour espionnage au profit du régime israélien, qui a conduit à l'assassinat de 2 scientifiques nucléaires iraniens. Lundi, le secrétaire du Haut Conseil iranien aux droits de l'homme, Kazem Gharibabadi, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision publique iranienne, a déclaré « Pourquoi la Suède prétend-elle être un défenseur des droits de l'homme, de la lutte contre le terrorisme et d'un monde de paix, de sécurité et de stabilité alors qu'elle accueille les groupes terroristes comme l'OMK ?»